RFI.
Radio Foot International.
Olivier Prond.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International, une journée de pause pour la dame, et ben tac, pendant ce temps-là, nous on prend tout, la Ligue des Champions, c'est l'heure du bilan en phase de groupe terminé, 16 qualifiés, rien que des habitués, ou presque, Lyon qui rejoint Paris et redonne des couleurs à la Ligue 1 dans ce ciel européen qui semblait pourtant si sombre il y a encore 2 ou 3 semaines. 4 sur 4, carton plein pour les Anglais d'une première ligue haut niveau, 3 sur 4, mention bien pour Espagnols et Allemands, passable pour les Italiens, l'Ajax de retour, Porto qui résiste et qui est toujours là, bref, du lourd, du solide et un tirage au sort des 8e lundi, qui pour Lyon et Paris notamment, et chez nous, qui pour analyser sans complaisance, Naïm Meuniol. Bonjour monsieur Meuniol.
Salut Olivier, salut à tous.
Avec un prisme germanique évidemment, David Lortolari.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
À la recherche des nombreux nord-africains encore en piste, Nabil Djellit.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Nabil qui ne manquera pas une miette, bien sûr, de notre dernier quart d'heure. Et s'il n'y avait pas de candidat pour suppléer le Cameroun pour la CAN 2019? Eh oui, on peut se poser la question à 24 heures de la clôture officielle de l'appel à candidature. Niette, nada, nobody, kechi, c'est gâté, comme on dirait sur le continent, entre les non, mais si on me prie de la faire gentiment, j'irais peut-être. Les oui, mais... Non, les peut-être bien que oui, les fédérations qui candidatent, les ministres qui rétractent. Où va la CAF dans une cancophonie assourdissante? Ça marche aussi avec CAFcophonie, c'est ça qui est bien. On a brainstormé tous ensemble ce matin, Pierre-Olivier Guérin, le Réfé, David Calfa, Christophe Jousset, pour vous trouver tous ces jeux de mots. 15 jours que l'on entend tout et son contraire, et nous donc pour essayer d'y voir plus clair. Laurent Salerno, manette, on est parti. Lyon, une victoire à City, 5 nuls derrière, et ça suffit. Bonne surprise, messieurs. Oui, bonne surprise. Un nul, enfin, une victoire et 5 nuls sur le papier, c'est pas flamboyant.
Il n'y a pas de défaite, il y a une qualif, et sur la lecture chaude de la situation, c'est le plus important, les résultats. Lyon est qualifié, Lyon s'est qualifié avec un but de Fekir, ce qui est une deuxième bonne nouvelle, puisqu'il avait fait une phase de poule assez moyenne, on va dire. Il était peut-être moins dedans, il a donné ce point décisif pour la qualification. C'est la seule chose à retenir, moi je pense que sur le contenu des matchs, pas mal de choses sont inquiétantes dans les deux surfaces. Ça a été le cas tout au long de la phase de poule, mais comme il n'y a pas de défaite et qu'il y a eu quand même pas mal de buts marqués, parce que ça c'est quand même un point positif, et bien seule la qualification est belle pour Lyon.
Félicitations à l'OL, 4 points sur 6 face à un adversaire comme Manchester City, c'est quelque chose qui est remarquable. Je suis pas persuadé que beaucoup d'équipes aujourd'hui en Europe en soient capables. Ça c'est au rayon évidemment des satisfactions. Alors évidemment, au niveau du contenu, l'inconstance notamment d'un quart d'heure à un autre de cette équipe lyonnaise qui est complètement illisible, et aujourd'hui effectivement quelque chose qui est problématique, mais force est de constater que Lyon s'est qualifié quand même en huitième de finale. Ils sont dans le top 16 européen. Beaucoup de gros clubs sont restés sur la paille, ou des clubs intermédiaires. Donc la mission elle est validée pour Bruno Genesio, qui est extrêmement décrié. Ce qui est agréable avec cette équipe lyonnaise, c'est qu'elle est effectivement perfectible. Il y a de la qualité, il y a des joueurs, on ne s'embête jamais.
David.
Nabil a parlé d'inconstance, j'allais parler moi de déséquilibre, c'est probablement lui qui a plutôt raison, parce que le déséquilibre en fait, il était plutôt dans les deux équipes qui sont éliminées. Hoffenheim qui a tendance à donner toutes ses forces vers l'attaque et à prendre 3 buts par match presque pour simplifier.
C'est le cas de Lyon aussi.
C'est vrai.
Lyon prend beaucoup trop de buts. Avec un gardien de la qualité de Lopez, se retrouver aussi souvent mené ou rattrapé, c'est qu'il y a un gros problème derrière.
Alors peut-être en faveur de Lyon, ce qui a joué, c'est peut-être un peu plus d'expérience dans cette compétition, ou le fait que Hoffenheim était vraiment un petit novice dans cette compétition-là, et puis déséquilibre aussi côté Shakhtar Donetsk, parce que c'est une belle équipe avec de beaux joueurs, ça va bien en attaque, etc. Mais il y a un vrai déséquilibre aussi dans ce que cette équipe produit. Donc Lyon finalement a peut-être profité de ces deux défaillances-là pour faire partie des deux qualifiés.
Nabil a parlé de Genesio, c'est vrai qu'il faut quand même lui tirer un sacré coup de chapeau, parce que quand on se rappelle la composition composition de l'équipe au match aller contre Manchester City, avec Diop, avec Cornet. Tout le monde se dit, on va aller là-bas, on va se faire défoncer. Résultat des courses, non seulement les deux sont bons, Lyon gagne, Cornet marque, c'est lui qui a marqué le plus de buts contre Manchester City. Il y a eu des coachings de fait durant l'année, que ce soit dans cette phase de poule, que ce soit sur le système ou sur les hommes qui, a priori, pouvaient laisser un petit peu nous laisser dubitatif et qui au final se sont révélés plutôt intéressants. Donc bravo à Bruno Genesio qui a quand même réussi un sacré truc.
Alors on va en parler, mais on l'écoute. Tiens, d'abord Bruno Genesio.
Je pense qu'on a fait une très très bonne première mi-temps. Il nous a manqué l'efficacité dans les deux surfaces, ce qui est quand même le plus important, mais on a réussi à corriger ça en deuxième, ce qui montre que les joueurs sont intelligents et savent se prendre en charge. Je crois que c'est un peu l'histoire de notre saison, de notre équipe. Cette équipe a de la qualité d'abord, du caractère, parce que c'est pas facile de rentrer à la mi-temps à 0-1 compte tenu de ce qu'on avait fait et d'être capable de réagir comme on l'a fait. Et je pense que c'était largement mérité. On a montré aussi qu'on était une équipe capable de faire du jeu, de venir ici pour imposer quelque chose. Donc voilà, je suis fier parce que c'est ce qu'on avait décidé de faire et les gens ont répondu pleinement à nos attentes.
Pleinement à nos attentes, Bruno Genesio au micro de Cédric De Oliveira qui était hier à cette rencontre qui doit être en train de rentrer depuis la lointaine Ukraine. Bruno Genesio, on a l'impression que cet extrait qui parle du match d'hier, on aurait pu le diffuser après chaque match de Lyon en Ligue des Champions. Et la question que je voudrais vous poser, c'est on a l'impression d'avoir quand même une équipe qui nous agace énormément en Ligue 1, qu'on voudrait voir aussi emballante qu'elle l'est parfois en Ligue des Champions. On a l'impression d'un Lyon à deux visages. Alors parfois sur les matchs de Ligue des Champions, mais sur ces deux compétitions-là, c'est quand même assez criant. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
On est forcément d'accord. Je pense qu'il y a un niveau de concentration des joueurs sur les matchs, certainement des matchs de gala, parce qu'ils sont forts avec l'effort quand même. Lyon, et en revanche, ils n'arrivent pas à mettre le curseur à un niveau suffisant. Ils n'ont plus assez de marge face à des équipes qui viennent, qui sont peut-être...
Péché de jeunesse.
Pardon?
Péché de jeunesse.
Je sais pas, moi je me suis renseigné quand même, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait interpellé. J'ai appelé des gens, notamment autour de joueurs dans le vestiaire, et finalement ils ont les mêmes explications que nous, effectivement, péché de jeunesse, et aussi des joueurs, parce que Bruno Genesio est pas dupe, hein, il a dû leur rabâcher mille fois, je veux dire, il y a un moment, mais même comme ça ne marche pas. Donc je pense que c'est aussi dans la nature même de certains joueurs de l'OL, qui sont par essence des joueurs talentueux et intermittents, c'est-à-dire que sauf peut-être Fekir s'il n'avait pas eu ses pépins de blessure, la régularité c'est pas non plus ce qui caractérise la carrière de Traoré ou la carrière d'un garçon comme Depay. Et ensuite un autre élément qui est extrêmement important, c'est que je pense qu'il manque quand même de tauliers quelque part, c'est-à-dire notamment au milieu de terrain où il manque un N'Golan, je sais pas, un Alan comme à Naples,
un Strootman,
ou peut-être même un Gonalons par à l'époque.
Il est pour blaguer aujourd'hui. Pardon, je crois, David Lortolari.
Mon cher David, Strootman, son surnom c'est la machine à laver. Je peux vous dire que c'est tout sauf une vedette, et elle est même en panne du côté de Marseille. Il manque peut-être des leaders dans cette équipe, parce que finalement le capitaine c'est Fekir, mais Fekir il est là pour faire quoi?
Il est trop souvent.
Il est là pour marquer des buts quand même.
Il est là pour faire la différence. Il est pas là pour recadrer, expliquer, replacer forcément les joueurs.
Je pense que ce soit dans sa personnalité en plus.
Voilà, oui. Je pense qu'il manque quand même un taulier dans cette équipe.
Je suis d'accord sur l'absence de leader qu'on a beaucoup souligné. Il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que le format de la compétition et l'adversité fait qu'en Ligue des Champions tu dois être concentré tout de suite. Je dis pas que Lyon prend les matchs par-dessus la jambe en Ligue 1, mais sur 38 journées tu sais qu'à un moment donné mécaniquement toi tu vas monter en puissance parce que t'as les joueurs pour le faire, et que les équipes qui te prennent des points sur le début de saison mécaniquement elles vont redescendre et s'essouffler parce que le niveau moyen et puis les faibles effectifs font que t'as des équipes qui se tirent vers le bas naturellement au cours d'année. Lyon, si tu prends les saisons de Lyon année après année, c'est plus ou moins le même scénario, c'est des demi-saisons, t'as toujours une première partie qui est brinque-ballante avec 2-3 résultats et puis beaucoup de points perdus, et puis sur la deuxième moitié une série de 10-12 victoires, de 10-12 matchs sans défaite, et c'est comme ça qu'ils attrapent l'Europe. Chaque année c'est à peu près ça les saisons de Lyon en championnat. En Ligue des Champions, t'as 6 matchs pour faire la différence, et déjà des fois au bout de 2 ou 3 il y a des écarts de points qui sont irrattrapables. Donc bravo à eux, il y avait un exploit à City, et moi je dis bien exploit, c'est tout le monde n'est pas d'accord avec ça autour de cette table, pas aujourd'hui mais sur d'autres semaines, il y a eu un exploit de fait à City. On peut leur reprocher les points perdus contre Hoffenheim et contre le Shakhtar, l'essentiel est qu'on a vu une équipe de Lyon qui marquait quand même beaucoup de buts. Le vrai problème c'est qu'elle en prend autant, c'est ça aussi le souci, mais les défenses de Lyon, on pourrait faire une émission là-dessus.
Fekir 3 buts, il y a pas un Français à part Griezmann qui a fait mieux dans cette phase de poule 4.
Benzema 3 aussi.
Et Depay 4 passes décisives, c'est le meilleur passeur de cette phase de poule avec Mahrez, Mbappé. Bon voilà, il y a quand même
c'est le
10e 8e de finale, ça n'est pas rien
bien sûr.
De l'Olympique Lyonnais, le premier depuis 7-8 ans hein, de la saison 2011-2012.
Mais c'est intéressant, c'est intéressant ce que vous dites sur Depay parce que
Depay
finalement qu'il excelle aujourd'hui, qu'il soit en tête du classement des passeurs. Ça veut dire que bah quelque part il cultive aussi une forme d'altruisme, c'est quand même un joueur assez perso, auto-centré qui a un talent exceptionnel. Mais les stats lui, il est fait plutôt pour mettre des buts, excusez-moi. Mais là qu'aujourd'hui,
oui, c'est mieux que rappeur.
Pardon ? C'est vrai qu'il est un peu le cigare aussi à ce niveau-là. Mais qu'il se retrouve aujourd'hui en tête avec des garçons comme Mahrez qui est plus dans un rôle finalement de passeur que de finisseur, ça dénote quand même finalement d'une animation collective offensive, pour le coup, intéressante.
C'est ça que David soulignait tout à l'heure, le déséquilibre de cette équipe entre ce qu'on peut voir devant et derrière. Et devant, quand vous avez Depay, Fekir, Dembélé, Traoré, qui peut-être pas dans la finition, mais qui en tout cas, sur les 70-80 premiers mètres du terrain, peut faire la différence avec sa vitesse. Plus Sawar, plus Ndombele. Vous avez des mecs qui savent jouer au foot et qui se créent des occasions. D'ailleurs, Lyon se crée des occasions constamment. Le vrai problème, c'est qu'elle a un peu de mal à les mettre au fond. Et que surtout, à la perte du ballon, elle est extrêmement fragile. Mais comme vous avez jamais la même défense à Lyon, vous pouvez pas créer des automatismes et avoir de la sécurité.
Alors Lyon qui est qualifié pour les huitièmes de finale, ben je le disais dans les titres, c'est quand même une bonne nouvelle parce que avec Paris, ça fait deux clubs français
c'est
sur
génial.
Trois, deux clubs en huitièmes de finale. Qui l'eût cru, messieurs, il y a encore 3 ou 4 semaines, je me souviens d'une consultante ici, qui vient chaque semaine, qui est plutôt blonde et qui a des lunettes de soleil, qui nous parlait d'un 0/3 pour les clubs français. Je m'arrêterai là, je ne citerai pas son nom, hein, évidemment. 0/3, mais on n'en était pas loin et on pouvait légitimement penser qu'elle était clairvoyante. Bon, à l'arrivée, ça n'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Que la Ligue 1 est pas si mauvaise que ça? Que simplement la Ligue des Champions transcende? David Lortolari, on l'a pas beaucoup entendu.
Déjà, on va faire la différence entre Lyon qui se qualifie à un but près hier, il a fallu que Fekir égalise, et qui donc, comme on le disait plus tôt dans l'émission, n'a pas de marge, et des équipes qui sont qualifiées au bout de 3 ou 4 journées de Ligue des Champions. Déjà, ça fait une différence. Pour Paris Saint-Germain, le groupe était relevé, et là aussi, il a fallu attendre la dernière journée, et un match finalement maîtrisé à Belgrade pour que ça se qualifie. Donc, entre bilan négatif, très négatif, avec 0/3, et bilan effectivement bon signe, avec 2/3, il n'y a pas non plus une différence extraordinaire.
Je pense que c'est des équipes qu'on surtout endosser leur statut, parce que même si Paris était dans un groupe très compliqué, l'effectif et le budget par rapport à Naples par exemple fait que Paris devait sortir de cette poule, il s'est compliqué la tâche mais il l'a fait, et Lyon c'est la même chose.
Oui.
On s'attendait pas à ce qu'ils aillent battre City à City, mais globalement au mois d'août sur le tirage au sort on se dit bah on fait deuxième derrière City et si on sort pas c'est contre-performance. Donc c'est des équipes qui ont endossé leur statut, c'est pas tous les ans le cas, donc c'est bien aussi de le souligner.
Non mais c'est vrai que la question elle est légitime, on aura aussi encore des éléments de réponse ce soir avec l'Europa League, Rennes et Bordeaux sont encore en lice. C'est une éclaircie une belle éclaircie pour le football français parce que on est chaque week-end pas accablé, mais on voit qu'il y a un îlot d'excellence qui est le Paris Saint-Germain et parfois un océan de médiocrité qui est en partie le reste de la Ligue 1. Faut pas se mentir. Aujourd'hui, la Ligue 1 n'est pas un championnat de rencontres, c'est un championnat de joueurs dans lequel les gros clubs viennent se servir pour construire leurs équipes. Ensuite, qualitativement, on a les deux meilleures équipes du championnat de France quand même en Ligue des Champions qui sont qualifiées. Le PSG, c'est évidemment leur objectif de la saison. Ils sont sortis d'une poule extrêmement difficile. C'est la première fois qu'ils tombaient dans une poule avec Liverpool, finaliste de la dernière Ligue des Champions, et Naples, qui est une équipe qui joue très bien au foot et qui aurait pu très bien être de huitième de finaliste, quart de finaliste sur ce qu'elle propose. Ensuite, Lyon, qualitativement, aujourd'hui, c'est un club tremplin, à l'image peut-être de Porto, du Shakhtar Donetsk, qui a des joueurs qu'elle met en vitrine parce qu'elle ne pourra pas les conserver ad vitam aeternam. Et quand vous arrivez à trouver un minimum d'osmose, un minimum d'équilibre, finalement, ils ont gagné leur championnat à 3 parce que eux, ils jouent un championnat à 3. Ils ont fini leur championnat devant le Shakhtar Donetsk et Hoffenheim parce que quelque part, Manchester City, même s'il y a eu quelques accros sur ce tour de poule, c'est une équipe qui est quand même hors norme.
Et puis il faut quand même voir un truc, c'est que sur du très court terme, dans les semaines et les mois qui arrivent, se qualifier en Ligue des Champions pour Lyon, c'est quand même un argument massu pour conserver certains joueurs. On parlait tout à l'heure de Nabil Fekir, peut-être même Oussem Aouar. Financièrement, ça te donne quand même des perspectives supplémentaires et pour les 6 mois qui arrivent et pour la saison prochaine. Donc c'est une très très bonne nouvelle cette qualification, évidemment sur les résultats, sur le prestige du foot français, mais ne serait-ce que pour que Lyon redevienne ce gros club qu'il a été, et Dieu sait que la France en a besoin, le championnat de France aussi, c'est une excellente nouvelle.
Et Paris a gagné son championnat à 3 de très haut niveau avec Naples et Liverpool.
Presque à 4, quelque part.
Et presque à 4.
Oui, parce que l'étoile rouge Belgrade, jusqu'à la dernière journée, pouvait espérer accrocher un accessite, l'Europa League.
Et Paris détermine d'ailleurs meilleure attaque de toutes les phases de poule avec 17 buts, me semble-t-il.
Ouais, ils ont mis 10 buts contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ouais. Je veux pas pondérer, ouais, mais ils ont fait leur
Il me semble que la saison dernière, ils avaient fait une très grosse phase de poule de ce côté-là aussi. Il y avait eu un 7-1.
Oui, puis c'est...
Non, mais là, c'était plus difficile.
Oui, puis record de précocité, record de buts, record de ceci, record de cela.
C'était plus difficile. Et puis, il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Donc, il y avait aussi pour lui un test et puis une phase d'apprentissage de son effectif. Il a cherché pendant très longtemps et tactiquement, il a fait progresser son équipe au fur et à mesure. Donc, c'était pas si simple que ça.
Je réfléchissais à ce qu'on me disait. Monsieur Salerno, Monsieur Fekir, nous le garderons pour un petit peu plus tard. Je propose maintenant que nous allions vers d'autres pays européens qui ont une réussite tout autre que celle de l'équipe, pas de l'équipe de France, mais de la France. 2 sur 3, on l'a dit pour les Français.
C'est bien.
Mais certains ont fait mieux. Ils ont vu le soleil, et ça n'est pas banal en Angleterre, le pays du pop, de la pop et du rock. 4 sur 4 pour les clubs anglais, ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas vu ça, on les voit pas toujours au sommet. On a l'habitude de dire que la Première Ligue est le championnat le plus attractif, le plus attrayant, on va dire, au monde. Le meilleur, c'est autre chose. Bah, 4 sur 4, ils sont les seuls à faire ça. C'est fort quand même, non ?
C'est fort, ça témoigne effectivement d'une vitalité incontestablement. Et également d'une qualité d'entraîneur. La Première Ligue aujourd'hui, c'est aussi les meilleurs entraîneurs de la planète. Tottenham, Pochettino, Manchester United, José Mourinho, même si on peut mettre des bémols, mais c'est José Mourinho. Manchester City, c'est Pep Guardiola, si je dis pas de bêtises. Et le dernier club qui s'est qualifié, c'est
Tottenham.
Non, j'ai dit Tottenham. Tottenham, City, United,
Liverpool,
c'est Jürgen Klopp. Donc bon, déjà juste au nom des entraîneurs, tu trembles. Non, mais je veux dire, quelque part, ça te garantit pas le succès, mais quelque part, ça te donne.
Non, parce que Ancelotti à Naples, ça n'a pas garanti.
Ouais, mais ça s'est pas joué à grand chose pour Ancelotti. Ensuite, la saison dernière, si je me souviens bien, je crois qu'il y avait eu 5 clubs anglais qui avaient réussi à se qualifier, non, ou 4.
Je crois que c'était l'année d'avant, parce que Liverpool avait gagné la.
Ah oui, c'est ça.
Non, il avait perdu la finale de Ligue Europa contre le FC Séville.
Mais c'était qualifié quand même.
Après, il faudra voir les cas des huitièmes et des quarts de finale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien il en reste dans le dernier carré.
On verra ça tout à l'heure. Justement, c'est pour ça qu'on faisait référence à Nabil Fekir il y a quelques instants avec Monsieur Salerno, très vigilant derrière sa console. Les clubs anglais, 4 sur 4. On rappelle quand même que 3 de ces 4 clubs sont passés par un trou de souris.
Bah oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Parce que au coup d'envoi hier, et Liverpool et Tottenham étaient éliminés. Donc après, on peut dire les clubs italiens ont peut-être pas fait le job. Ça montre quand même des vertus de caractère à Tottenham et à Liverpool. Ça n'a pas été flamboyant tout le temps dans le jeu. Et la phase de poule a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais globalement, c'est des équipes qui ont réussi à tenir leur rang, notamment devant. Et moi, je suis comment ?
Non, j'allais dire justement, une petite parenthèse, l'Inter Milan, l'international, qui fait un faux pas à domicile contre PSV Eindhoven, on peut dire c'est sa faute s'il n'est pas qualifié. N'empêche que Tottenham est allé chercher un point à Barcelone.
Ils ont été chercher un point à Barcelone, et puis ça commence aussi à jouer à l'expérience. Tottenham, sur les dernières années, sur le passé très récent, je parle pas historiquement, mais sur le passé très récent, Tottenham est une équipe beaucoup plus souvent européenne que l'Inter Milan. Et ça joue aussi, c'est une équipe qui se renouvelle très peu, qui a le même effectif depuis 3-4 ans, donc les mecs commencent aussi à avoir l'habitude, donc bravo à eux, c'est très bien.
On rappelle que lors du tirage au sort lundi, dont on parlera dans quelques instants, les clubs d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer. Donc les 4 clubs anglais auront leur chance, même si, encore une fois, 3 des 4 affronteront des premiers de groupe, puisque c'est vraiment passé. On peut pas dire que Manchester United nous ait emballé dans un groupe très largement à sa portée.
Ils ont un fait d'armes contre la Juve.
Un miracle.
Ouais, un miracle, un braquage.
Mais ils l'ont fait.
Ils ont pris 3 points là-dessus, tant mieux pour eux. Moi, très sincèrement, tout à l'heure,
ils sont battus à Valence hier, on le rappelle.
On parlait tout à l'heure des potentiels adversaires du PSG avant le début de l'émission avec David. Sincèrement, si demain United affronte le PSG, faut pas avoir peur, il y a pas de quoi avoir peur, ça peut embêter le monde, mais c'est pas une équipe qui peut rivaliser avec ce genre d'équipe.
On y reviendra bien sûr. Un mot encore sur les clubs anglais, Nabil.
Non, j'allais vous donner mon classement des adversaires à éviter pour le Paris Saint-Germain.
Ça tombe bien, on y vient dans quelques instants parce qu'on a parlé des Anglais. Alors ça nous dit quoi quand même sur le niveau de la Première Ligue, pas de surprise.
Non mais pour 4 sur 4, c'est bien, ils ont c'est 100% de réussite, ça aurait pu être aussi 3. C'est le championnat aujourd'hui qui est le plus intense. Qualitativement, il y a des gros joueurs parce qu'ils ont aussi de l'argent pour acheter des joueurs, mais il y a aussi des équipes qui sont stables. Tottenham, c'est stable.
Pochettino,
il travaille. Voilà, Pochettino, il travaille avec lui-même. Bon, Guardiola, c'est un génie. Il a réussi à faire que ses stars ne soient pas indispensables. Regardez les compositions de Manchester City. Des fois, c'est Sterling, des fois, c'est Sané, des fois, c'est Mahrez, des fois, c'est Aguero, des fois, c'est Jesus, des fois, c'est Bernardo Silva, des fois, c'est David Silva. Et le tout sans Kevin De Bruyne, le meilleur joueur de la saison dernière, qui est blessé. Ensuite, Manchester United, il y a le groupe, la force de l'habitude, également avec José Mourinho. Et quand même, in fine, il y a quand même quelques joueurs de qualité, même si le rendu est loin de ce qu'on peut espérer, que c'est pas le théâtre des rêves. Après, Liverpool, moi je pensais que Liverpool, ils allaient passer à la trappe. Parce que, en fait, je pense que l'objectif principal de Liverpool, même s'ils le diront jamais, c'est évidemment le titre, qu'ils n'ont pas gagné depuis 1989. Ils sont mano à mano avec Manchester City. Et je pensais quelque part, parfois, je dis pas qu'il faut encourager l'élimination, loin de là, et la meilleure des vitamines, c'est aussi la victoire. Je pensais que ça aurait pu pour eux être une meilleure chose si réellement ils veulent renouer avec le titre de champion d'Angleterre, parce qu'ils ont échoué ces dernières années pour pas grand chose. On se souvient notamment de cette action de Steven Gerrard.
Ils finissent deuxième.
Ouais. Je les vois pas en finale. En fait, je les imagine pas une seule seconde rééditer
faire une parcours. Grosse Ligue des Champions.
Mais non, je les vois plus sur le championnat d'Angleterre.
Je pense que c'était la mentalité britannique d'il y a quelques années avec les Brendan Rodgers et compagnie. Quand tout à l'heure on parlait des entraîneurs étrangers qui ont amené quelque chose au club anglais, c'est le fait qu'aujourd'hui on ne se limite pas à un objectif qui est souvent d'être champion d'Angleterre et puis la Ligue des Champions, où est-ce que ça donne. Ces équipes-là, elles veulent tout gagner et ces entraîneurs-là veulent tout gagner. Et moi, je croyais fortement que Liverpool allait faire le job, parce que ce soit Jürgen Klopp ou Guardiola qui n'a pas été dans cette situation mais qui aurait réagi pareil. On peut pas se limiter à un objectif, on veut tout. Et arriver au mois de décembre, jouer le titre dans un championnat majeur, être privé de Ligue des Champions dès le mois de décembre, ça fait quand même tâche sur l'année. Donc moi, je suis pas inquiet pour eux.
Oui, et puis en recevant, donc dans son stade, Naples à la dernière journée avec la possibilité de se qualifier, c'est logique qu'un Jürgen Klopp, oui, avec le public derrière...
T'as quand même Mané, t'as Salah, t'as quand même des vrais joueurs qui ont brillé là, qui sont quand même dans le top 10 ou le top 15 du Ballon d'Or. Tu perds le match aller à Naples, mais tu peux très bien le gagner parce que t'as aussi les occasions pour faire la différence là-bas. Donc il y a quand même, puis il y a la défaite qui fait vraiment tâche à Belgrade quand même, qui te met en sursis.
Ils perdent quand même les trois matchs à l'extérieur, ils passent avec trois défaites quand même.
Oui, à l'extérieur,
ils font faire à l'extérieur.
C'est aussi là, oui, c'est la magie de cette Ligue
des
Champions.
Donc ça se joue pas, voilà, on peut pas dire qu'ils aient réussi un super parcours.
Dans un groupe quand même très compliqué, sans doute le plus relevé. Voilà pour les Anglais, 4/4, on descend d'un cran. 3 sur 4, c'est quand même pas mal, mais c'est très logique pour l'Espagne.
Bah oui,
Barcelone, oui. Real en tête de leur groupe, l'Atlético deuxième, Valence passe à la trappe, mais encore une fois dans un groupe où il y avait Manchester United et la Juve.
C'est surtout le Real qui interpelle, qui est quand même le triple tenant du titre, qui est absolument exceptionnel avec Zinedine Zidane qui n'est plus là, ce qui est assez incroyable dans leur parcours. Moi je suis curieux de voir, parce que c'est vrai qu'ils commencent parfois leur saison un peu comme Lyon à partir du mois de mars, le Real ces dernières années, sauf qu'il n'y a pas Ronaldo ce coup-ci. C'est vrai qu'il
leur rendait, Zidane, y a pas Ronaldo.
Ouais, il rendait quelques services, enfin, pour pas dire plus, ils ont quand même deux défaites face au CSKA Moscou dans cette poule, ce qui prouve quand même un niveau quand même d'affaissement, qu'on le veuille ou non, de ce Real.
Du niveau, parce que même si ça n'est pas l'équipe type, prendre 3-0 non, chez soi,
c'est gênant.
Historique cette défaite. Ça n'est jamais arrivé depuis le début de cette compétition dans les années 60. Hein.
C'est intolérable, parce que même en faisant tourner ton effectif, d'abord tu fais pas entièrement tourner ton effectif, t'as quand même des joueurs là-dedans qui font partie de cette équipe qui a gagné les 3 Ligues des Champions, et même avec des jeunes, en prendre 3 à domicile face à une équipe russe déjà éliminée, c'est pas possible. Donc ça fait tâche, ça fait tâche sur l'année, ça fait tâche pour Solari, tâche pour certains joueurs dont la situation contractuelle est pas très claire. Donc oui, il y a forcément des choses à revoir pour ce début d'année 2019. Après, tout à l'heure, Nabil disait l'Angleterre est le championnat avec le plus d'intensité, l'Espagne est le championnat qui pratique le plus beau football. Les équipes jouent le mieux et t'as des joueurs exceptionnels. C'est pas forcément que des stars, mais c'est des joueurs exceptionnels. Donc on n'est pas surpris d'en voir 3 sur 4. Et pour vous le disiez tout à l'heure, Valence, ça joue pas à grand chose face à Manchester United. Donc globalement, l'Espagne endosse son statut.
Tué Valence, c'est la victoire de United, le miracle à Turin, quoi. Ouais. C'est tout.
Oui, parce qu'il y a deux points d'écart.
Après,
hein,
Valence, ils font une mauvaise saison actuellement en Espagne. Hein. C'est pas le fruit du hasard. Ils sont entre la 10e et 15e place. Ils sont pas au rendez-vous de ce qu'on pouvait espérer avec le coach Marcelino, si je dis
et
pas de bêtises.
Et pourtant, il y a eu un recrutement. Et pourtant, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés.
Et en ce qui concerne Barcelone, bah, c'est une implacable routine. Bon, dans un groupe très largement à leur portée. Hein,
oui, mais
Inter.
La curiosité, c'est on a vu la réaction de Messi le week-end dernier en championnat face à l'Espagnol, où il a été absolument stratosphérique. La curiosité, c'est de savoir si le FC Barcelone va vouloir et je pense qu'ils le veulent, renouer avec une victoire en Ligue des Champions. Est-ce qu'on va retrouver le grand Barcelone? Est-ce que ça va être finalement le favori de cette compétition? Parce que quels sont les vrais favoris qui se dégagent aujourd'hui? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Barcelone avec un Messi à ce niveau-là.
Manchester City,
la Juve évidemment.
Ouais, la Juve City.
Ouais, mais la Juve c'est pareil. Je veux dire, moi je veux bien, mais bon, ils perdent contre Jugendbay.
On va parler justement de l'Italie. Je voudrais qu'on reste dans les 3 sur 4. On vient de parler de l'Espagne, on aura l'occasion parce qu'on en parle un petit peu tous les jours.
Ça sera pour le PSG en 8e.
Ne devancez pas l'appel. L'Allemagne, 3 sur 4. On a l'impression que c'est l'éternelle bonne surprise, l'Allemagne. Certains s'étonnent toujours de cette Bundesliga. On annonce saison après saison qu'elle est peut-être pas aussi compétitive, elle est tout à fait compétitive. 3 sur 4 dans un championnat qui n'est pas forcément sur le papier celui dont on parle le plus.
Oui, compétitive parce que le brassage financier est nettement moins élevé que ce qu'on peut voir dans les transactions en Espagne ou en Angleterre par exemple, et d'autres pays aussi autour. On est peut-être plus quand même tout à fait, Olivier, au moment de cette espèce d'apogée quand il y a eu en 2013 les deux finalistes Dortmund qui étaient finalement vaincus et le Bayern. On n'en est pas à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... pas forcément de marge face à d'autres gros clubs européens, mais il y a pas réellement de surprise.
Offenheim, enfin, y a deux clubs qui terminent premier de leur groupe quand même, hein, le Bayern et Dortmund.
Mais là aussi, Offenheim découvrait, donc ça on met à part. Schalke est assez faible cette saison, donc le fait d'être deuxième derrière Porto dans un groupe assez faible, là aussi logique. Dortmund a profité, même si lui-même s'était fait piéger,
du faux pas
de l'Atlético contre Bruges lors de cette dernière journée pour être premier, mais Dortmund pratique un football tellement
emballant
que bon, c'est une récompense qu'il soit premier.
Dortmund, c'est un outsider de cette compétition.
Il leur colle une trempe au match aller, il y a absolument rien à dire.
Oui, le 4-0 de l'aller, et puis le Bayern est à sa place, c'est vrai, mais il a été terriblement secoué par l'Ajax Amsterdam à l'aller comme au retour. Et ça correspond à un bon niveau, la bonne surprise de chaque année, mais
ça vous semble moins fort cette saison par exemple, moins impressionnant que ça ne l'était d'autres saisons?
On en reparlera en février-mars.
Mais quel est votre sentiment sur cette première partie de saison de cette Bundesliga et de ces trois clubs et de ces porte-étendards que sont depuis quelques années le Bayern et Dortmund?
Dortmund est à part, et s'il continue avec cet enthousiasme-là et cette qualité et cette réussite-là, ça peut faire beaucoup de dégâts. Les deux autres, Schalke et le Bayern, ont tous les deux beaucoup de problèmes et on n'est pas aujourd'hui en mesure de dire qu'ils pourraient être un demi-finaliste éventuel, ni l'un ni l'autre.
Ouais, évidemment, mais paradoxalement, je trouve que cette Bundesliga, pour la première fois depuis très longtemps, elle est quand même super ouverte, parce que là, on parle évidemment des équipes qui font la Ligue des Champions.
Il y a l'Europa League, faut pas oublier
Francfort, faut pas oublier Mönchengladbach.
Leipzig,
chaque semaine, cette Bundesliga, elle est très ouverte, et peut-être aussi que des équipes qui passent comme ça, qui se qualifient, c'est aussi parce que cette saison, t'as un championnat super ouvert. Tout le monde peut aller chercher des points à Munich et ça motive. Et je trouve que avoir des équipes comme Dortmund qui met 4-0 à l'Atlético, effectivement le groupe de Schalke était pas terrible, mais Porto, Galatasaray et puis
Porto, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou.
C'est des équipes qui sont en Ligue des Champions tous les ans,
c'est
habitués.
On dit faible, c'est peut-être un peu fort effectivement.
Mais ce qu'il y a, c'est que c'était le plus homogène.
Porto et Schalke ont écrasé ce groupe
C'était un groupe un peu homogène parce que t'as pas une tête d'affiche, mais globalement ce que les équipes allemandes ont fait sur cette première moitié de tableau et pas négligé.
Mais la différence entre eux et nous, excusez-moi Olivier, c'est que les Allemands, ils n'ont pas forcément besoin d'être très bons pour réussir à se qualifier. Non mais globalement, nous, à part le PSG, si on est moyen, on passe pas. Alors que vous avez dans d'autres pays des équipes qui sont parfois moyennes, qui passent.
On peut même dire mieux, un Schalke qui est catastrophique régulièrement cette saison
Dortmund,
en championnat.
En dessous de tout.
Oui, mais en Ligue des Champions, ils ont su, et Olivier vous disiez écraser le groupe avec Porto. Oui, c'est vrai, parce qu'en Ligue des Champions, ils ont su aussi être meilleurs. Et donc, sur la scène européenne, se présenter sous leur meilleur jour par rapport à ce qu'ils peuvent faire aussi sur la scène nationale.
Les clubs allemands abordent d'une manière tellement parfaite les Coupes d'Europe. Je dis, ça veut pas dire qu'ils les gagnent ou qu'ils sont tout le temps en finale, mais ils savent tellement les gérer, ces événements-là, par rapport à nous en France.
Une question de mentalité. Hein.
Une question de mentalité des Allemands dans le sport en général qui fait aussi la différence à ce niveau-là.
Pour faire une petite pause, je vous propose d'écouter Lucien Favre. Tiens.
Soirée parfaite, ouais. On voulait absolument gagner ce match parce que peut-être qu'on aurait eu des petits regrets si on l'avait pas gagné, parce que finalement Bruges a fait 0-0 contre l'Atlético et on passe devant l'Atlético. Maintenant, je sais pas si ça aide beaucoup au niveau du tirage au sort.
Voilà pour Lucien Favre, qui n'est pas loin d'être l'entraîneur européen de cette première moitié de saison.
Ah oui, oui, sans faute. Ouais. Et chaque fois qu'il fait un remplacement, il y a un but derrière par le gars qui vient de rentrer en jeu. Donc non, c'est vraiment impressionnant. Moi, je crois pas une seconde
qu'ils arrivent à faire... Je rappelle qu'ils jouent en Ligue 1 la saison dernière et que, on me dit non, pas de club était, aucun
mais
club n'était intéressé.
Non, vas-y, finis.
Non, juste, enfin, par expérience humaine, simplement, Dortmund ne peut pas aller jusqu'au mois de mai en étant à ce niveau-là, parce que là, ce serait vraiment terrible.
C'est ce que j'allais dire, on disait la même chose de Liverpool l'année dernière.
Oui, alors voilà.
Moi, il me rappelle étrangement le Liverpool de l'année dernière, Dortmund. C'est-à-dire que t'as des mecs, ça joue bien au football, t'as 2-3 individualités qui ont un niveau fabuleux, on se dit, ça va pas tenir, c'est pas 6 mois, c'est bien sur une moitié de saison, c'est bien sur ce match-là, c'est bien ci, c'est bien ça. Et au final, les mecs, ils font finale. Et voir cette, je dis pas qu'ils feront finale, Dortmund. Mais ce que je dis, c'est que aujourd'hui, quand on parlait des favoris à la Ligue des Champions, Dortmund peut battre n'importe qui. Même City, même le Real, même Barça, je pense que cette équipe peut battre n'importe qui.
Affaire à suivre, on était dans les 3 sur 4, on descend dans le 2 sur 4, l'Italie. L'Italie aurait pu mieux faire. C'est un peu dur pour Naples, c'était très dur.
Oui,
L'Inter se rate au mauvais moment. Alors on rappelle, les deux qualifiés, la Roma, deuxième de son groupe, et la Juve, la Juventus, première de son groupe.
Bah, l'Inter aurait pu, je pense, s'extirper de groupe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il y avait le FC Barcelone, qui est un peu le Manchester City, l'épouvantail à... absolu, mais c'est un peu l'histoire de l'Inter de Milan. Quand on croit que c'est bon, c'est jamais bon, quoi. C'est pareil en Serie A.
C'est vrai.
C'est toujours là à l'arrivée, jamais là, toujours là au départ, rarement à l'arrivée. Et c'est vrai qu'il y a, pourtant, il y a de la qualité. Spalletti, travaille bien. Et puis, avec un joueur comme Icardi, vous avez quand même des arguments. En face, il y avait le PSV Eindhoven, si je dis pas de bêtises. Et Tottenham dont on parlait tout à l'heure. Moi, je pensais que l'Inter allait passer, très sincèrement.
Ça se joue à rien. Ils sont qualifiés au coup d'envoi de la sixième journée. Que
ça
ce soit
Naples, la différence de but,
ou que ce soit l'Inter. Et c'est peut-être là aussi le bas blesse pour ces deux équipes. C'est que devant, ils ont tellement raté. On va pas faire de parallèle, évidemment, entre les équipes, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais regardez ce que rate Naples contre Liverpool. Regardez ce que rate l'Inter contre le PSV. À un moment donné, à ce niveau-là, il faut aussi être efficace dans les deux surfaces. Et l'Inter et Naples n'ont pas été dans la surface adverse. Mais j'entends déjà les critiques qui disent oui, mais c'est parce que le foot italien, on en fait beaucoup, c'est pas mieux que la France, ou c'est pas encore au niveau de l'Espagne ou de l'Angleterre. Pour des équipes qui sont soi-disant dans un championnat plus faible, et une équipe comme l'Inter qui revient seulement au très haut niveau européen, ils ont fait une phase de groupe, il n'y a absolument pas à rougir, ça aurait très bien pu tourner en leur faveur, ça se joue parfois à un but. C'est vraiment pas grand-chose.
Et le 2 sur 4, c'est quand même pas si mal. On a la Roma qui est là aussi, qui a terminé deuxième du groupe, donc derrière le Real Madrid. La Roma, on y croit, et puis ça finit toujours par décevoir.
Ah ouais, mais bon, la saison dernière, ils sont arrivés en demi-finale. Là, encore une fois, ils sont sur un bon cycle, puisqu'ils se qualifient en 8e, ils sont dans le top 16.
Ils sont pas bien en championnat, mais
top 16
encore une équipe qui...
Peut-être que c'est une équipe qu'on va encore retrouver en quart de finale, voire en demi-finale. Ça dépend après du tirage également, qui va rentrer en ligne de compte. Mais une équipe à ne pas enterrer, avec, rappelons-le, quand même une ambiance extraordinaire. Quand on joue, quand on se déplace au Stadio Olimpico, c'est quelque chose.
Ça chante
bien. Et le FC Barcelone peut en témoigner, puisque la saison dernière, c'était un des grands exploits de cette Ligue des Champions, avec ce...
Un stade fait pour le foot, nettement moins pour le rugby, parce que l'équipe italienne y joue
Manolas.
Rugby, et là, c'est pas tout à fait la même chose.
C'est resté célèbre, Manolas.
Un mot sur Porto, éternel Porto, qui survole un groupe assez faible,
mais quand même
16 points, ça veut dire 5 victoires
à
un match.
Moi, j'y crois pas à Porto, je pense que c'est pas un grand Porto. Je suis d'accord sur ce que vous dites. C'est un Porto que je suis encore régulièrement. Aboubakar notamment s'est fait
toujours là.
S'est fait les croisés et il est pas là malheureusement. Il y a un gros problème de genou.
Porto est toujours là.
Ouais, la locomotive c'est un peu Maréga en ce moment. L'international malien, encore un gamin issu des Ulysse. Mais je crois que c'est une équipe qui est quand même bonne à prendre pour une équipe en huitième de finale, puisqu'il termine premier. Moi, si je suis deuxième, si je suis Lyon par exemple, on en parlera après du tirage.
Ouais.
Je croise les doigts, mais vraiment très fort pour avoir le FC Porto.
Un mot sur l'Ajax, que l'on retrouve en huitième de
plus
finale
dangereux.
De cette Ligue des Champions.
Dangereux que le FC Porto pour moi.
L'Ajax qui renaît de ses cendres, on les voyait venir depuis quelques saisons. Ça, c'est une équipe qui peut faire mal.
C'est un peu comme l'Ajax il y a 2-3 ans quand ils font finale de la Ligue Europa. C'est très jeune, mais ça joue très bien. Ça joue très très bien au football, avec des individualités de qualité, notamment Hakim Ziyech qui est absolument fabuleux, joueur. Donc voilà, à prendre au sérieux, ça joue très bien. Après, c'est pareil, c'est très inexpérimenté. Il n'y a pas réellement de grandes stars individuelles capables de faire la différence dans les matchs compliqués comme les grosses équipes peuvent avoir. Donc c'est pas un favori, mais c'est à surveiller, ne serait-ce que pour le spectacle.
Il y a peut-être un brin de folie supplémentaire par rapport à ce qu'on a vu il y a 2-3 ans. Comme, puisque j'ai suivi ça de près forcément, contre les deux matchs contre le Bayern, ça peut tourner avec 4-5 buts pour l'Ajax les deux fois. Alors bien sûr, après, on ne marque pas à chaque occasion qu'on se crée, mais ça part dans tous les sens très vite, avec des joueurs qui prennent leurs responsabilités très jeunes, comme le capitaine
De Ligt. De Light là.
De Ligt. Mais après, bien sûr, ça peut aussi flancher complètement avec, à l'image de cette expulsion hier, qui vient un peu de nulle part. C'est une équipe qui peut être très dangereuse, mais bien sûr, on peut aussi lui faire mal. Elle est forte en attaque, elle peut être aussi complètement désemparée en défense.
Il y a aussi la faiblesse naturelle de son championnat qui ne l'aide pas au très haut niveau.
Tous les gros sont là. Vous disiez tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas passés. Non, mon cher Nabil Djellit, il n'y a pratiquement aucun. Ceux qui ne sont pas passés.
Naples.
Si vous considérez, à part Naples, mais dans un groupe excessivement difficile, l'Inter est-il toujours un gros? Benfica est-il toujours un gros? Valence est-il toujours un gros?
Non.
Donc tous les gros sont là. Ce qui nous amène au huitième de finale. Tirage au sort quand?
Lundi à midi.
Lundi à midi, où ça?
À Zurich ou à Nyon?
À Nyon. Alors, dans l'ordre, qui pour Paris? Alors Paris.
Alors moi je vous ai fait mon classement Paris, là en deux secondes.
Paris chapeau 1, dans les premiers de groupe, ça tombe bien, ça permet d'éviter Barcelone, le Real, Manchester City, Dortmund, rien que ça, le Bayern et la Juve. Alors qui pour Paris? Schalke, la Roma, Tottenham, pas Liverpool puisqu'ils étaient dans le même groupe, l'Ajax ou Manchester United, pas Lyon puisqu'on le rappelle, en huitième, deux clubs d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer.
Alors moi j'ai fait mon petit classement à éviter. Numéro 1 forcément l'Atlético Madrid.
Oui.
J'ai mis en 2 Tottenham. Mm-hmm. Vous avez le droit de pas être d'accord.
Non, mais là,
en 3 Manchester United.
Oui.
Pas enterré, mais qui peut être ennuyeux, surtout avec un entraîneur qui va vous pourrir l'ambiance. José Mourinho. 4 l'Ajax, parce que c'est une équipe qui joue bien au football et qui monte en puissance, finaliste de l'Europa League très récemment, qui a conservé ses meilleurs joueurs. 5 Roma. Et je pense que l'équipe qu'il faut absolument prendre et que j'ai vu contre Dortmund ce week-end et qui joue même sans attaquant, c'est Schalke 04 qui est une équipe qui est pour moi moyenne.
Schalke est à prendre, mais je pense qu'au tirage ils vont prendre l'Ajax, ça relancera le dossier de Jong.
Et oui, si, c'est vrai. Qui est censé arriver à Paris.
Non mais vous le sentez
dès janvier.
Dès janvier.
Moi je fais mon pari puisqu'on fait Nostradamus. Moi je pense qu'ils vont prendre Manchester United et je pense que José Mourinho va pourrir l'ambiance.
Monsieur Lortolari,
oui,
vous avez le droit à
mais
la
non,
parole.
Mais c'est un classement qui est implacable, c'est-à-dire que l'Atlético Madrid s'est assis et est assis sur une décennie, peut-être plus, j'ai pas refait les saisons les unes après les autres, mais de réussite dans l'adversité contre des grosses équipes.
C'est le Ghana de la Coupe d'Afrique qui tourne autour du pot, mais
c'est dur à affronter, c'est dur à battre. L'Ajax, on a vu que ça peut vous planter 2-3 buts aussi bien à l'extérieur qu'à domicile, donc forcément il y a un danger. Manchester United, c'est Mourinho, c'est des grands joueurs, c'est une équipe qui peut être très pénible.
Oui.
Et puis alors après, oui, la Roma est accessible clairement, Schalke est moyen pour pas dire moyen moins, donc il faut prendre des équipes comme ça au tirage. Allez, deux tiers de chance de bien tomber, un tiers de chance d'être un peu plus embêté, quoi.
Ah ben on va passer à Lyon, où là il y a 3/4 de chance, pour ne pas dire 90% de chance de mal tomber. Parce que Lyon est deuxième, et on rappelle les premiers, Barcelone, Madrid, Manchester City, ils peuvent pas parce qu'ils étaient dans le même groupe, Dortmund, Porto, ça serait peut-être
Porto,
ça le bon tirage, le Bayern, ou la Juve, c'est vrai que c'est quand même énorme.
Alors vous savez, moi, le Bayern, je trouve, je sais pas, peut-être que David ne va pas être d'accord avec moi, mais je pense que le Bayern est accessible. Je pense
aujourd'hui,
que c'est une équipe. Alors attention, c'est pas une équipe, c'est un grand club. Mais il y a beaucoup de paramètres. Des joueurs en fin de cycle. Après, ça peut être à double tranchant puisque c'est leur dernière saison. Ils peuvent vouloir jubiler entre guillemets. Robben, Ribéry, Müller. Franchement, c'est un fantôme. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez. Lewandowski, qui avait déjà envie de partir la saison dernière. Leur défense, un Boateng qui va peut-être partir cet hiver. Donc dans les grands noms là, si je dois en choisir un pour Lyon, c'est le Bayern.
Que nous dit Nabil Fekir sur la suite, Laurent Salerno? Ah ben du coup il était surpris Laurent Salerno.
Sinon,
il nous dit rien.
Il y a Nabil Djellit à défaut de Nabil Fekir.
Alors on va la voir là.
Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'était pas passé. Maintenant on va attendre le tirage et voilà qu'on continue notre petit chemin en essayant de gagner encore des matchs. On est tous des compétiteurs, que des joueurs ambitieux dans ce groupe. J'espère qu'on aura une bonne équipe et surtout qu'on fera des bons matchs.
J'espère qu'on aura une bonne équipe, ce serait difficile quand même là de pas en avoir une. Elles sont toutes bonnes.
Mais même Porto, ouais. Ça paraît sur le papier l'équipe la plus faible à prendre, mais Porto, moi aujourd'hui, je vois l'état de la défense lyonnaise, je me dis qu'un Moussa Marega en forme, il y a pas grand monde qui l'arrête à Lyon, donc ça va être très compliqué. Allez, je vais faire moi aussi Nostradamus, je vais dire Dortmund et on va avoir un super match avec plein de buts.
C'est vrai que c'est vrai.
Ah oui, ça, oui.
Non, mais moi, je suis Lyon, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis Lyon, je suis les joueurs de Lyon, mais moi, je veux le Real ou le Barça. J'ai envie de rêver, quoi. J'ai envie d'aller jouer au Nou Camp. J'en suis plus à savoir si j'arrive en huitième ou en quart de finale. Non, mais c'est vrai, tu préfères jouer Messi ou tu préfères jouer Marega?
Lyon n'aura rien à perdre. Lyon a rempli son contrat. Dans ces cas-là, on sait jamais ce qui peut se passer. Là où on sait jamais ce qui peut se passer, c'est en Afrique et à la CAF avec la CAN. Je vous propose de terminer l'émission là-dessus. Monsieur Salerno, c'est à vous.
Nous avons une prime décision. Nous voulons tirer la CAN 2019 de Cameroun.
Elle est impossible de nous tenir.
Mais qu'est-ce que c'est que ce beats?
Non mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? C'est vrai qu'on a l'impression, ça fait 15 jours qu'on pourrait se poser cette question et on va se la poser encore pendant quelques temps. La CAF est SCF, sans canne fixe, on peut dire ça aussi, parce que là, on s'interroge et quand on s'interroge chez nous RFI, on fait venir Christophe Jousset.
Ah.
Voilà, donc il est venu, c'est l'homme des dossiers,
si,
voilà.
Si on avait des questions, vous n'avez pas les réponses, Christophe,
ouais.
C'est ça,
c'est ça. Voilà. C'est à peu
près ça. Nous serons à la CAN alors.
Vous ne vous souviendrez plus de votre question.
Qui, pour organiser la CAN 2019 qui aura lieu, parce que ça, on nous a bien confirmé que les dates, elles ne changeaient pas.
D'accord.
15 juin, 13 juillet, donc dans 6 mois et 2 jours. On est 24 heures avant la clôture officielle des candidatures chez le cabinet Roland Berger, c'est comme ça qu'on dit, puisque je crois qu'ils sont allemands. 24 heures avant la clôture officielle, et pour l'instant, zéro déclaré, et une cacophonie de dingos qui nous fait penser un peu à de l'amateurisme. Quel est votre sentiment à tous, avant de demander à Christophe ce qu'il en pense? C'est vrai que vous, en observateur...
C'est dramatique pour l'image du foot africain. C'est honteux. Sincèrement, c'est honteux.
Nabil ?
Moi, j'ai un seul mot et je préfère pas en dire plus, c'est incompétence.
David ? Peut-être. Avec sa rigueur allemande ?
Oui, mais ce qui apparaît cette fois-ci dans ce dossier-là, c'est que... Alors, je sais pas si c'est conscient ou non, mais n'étant pas en mesure de bien l'organiser ou de l'organiser de façon bien préparée ou quoi, on a tendance à faire un pas en arrière et c'est vrai pour le Maroc, c'est vrai peut-être pour d'autres pays aussi. C'est une grosse organisation, il y a 24 équipes, c'est ça?
Mm-hmm. Oui, ça sera la première à 24 équipes.
Le format a changé, la périodicité a changé.
On essaie de gagner du temps peut-être aussi.
Les gens qui dirigent la CAF ont changé, mais rien ne change.
Ah si, ce qui change, c'est qu'il y a Ahmad qui parle, Omari qui parle, le Liberia Moussa Bility qui parle, et en gros, Omari a un trou de mémoire pour la Guinée, Ahmad fait ce qu'il veut avec le règlement, et Bility contredit Ahmad. J'ai résumé, Christophe Jousset, c'est à peu près ça?
Bah oui,
c'est la cacophonie.
Non, oui. on sait plus trop où la CAN habite depuis une semaine maintenant. C'est vrai que chaque jour apporte son lot alors de démenti par rapport à ce qui a été dit, enfin de contradiction, et si on essaye de regarder la situation froidement, la CAN approche et on ne sait toujours pas où elle se jouera. On pensait avoir la réponse puisque tout le monde voyait gros comme une maison le Maroc reprendre l'organisation de cette CAN en 2019, mais ce scénario d'un seul coup, il y a un grain de sable dans l'enchaînement des puisque le Maroc a dit par des voix très officielles qu'il ne voulait plus organiser cette CAN. Donc voilà, on en est là et on n'est pas encore dans l'urgence, hein, parce que la CAF a déjà été bien davantage dans l'urgence, édition 2015.
Oui, mais cette nouvelle CAF avait dit « non, c'est terminé tout ça ».
Oui,
et oui, mais elle dit que c'est l'héritage, elle paye l'héritage finalement des décisions antérieures et notamment du changement de format.
Oui, mais c'est la nouvelle CAF qui l'a décidé, le changement de format.
C'est une partie du problème, oui, effectivement, puisqu'en 2014, on devait attribuer deux CAN et on en a attribué trois. Donc ça, c'est pour le volet guinéen, pour le volet Guinée 2023. Effectivement, ça renvoie à ce qui a été décidé il y a 4 ans. Mais là, si on ne parle que de 2019, la CAF, pas seulement les plus hauts dirigeants, mais l'ensemble du comité exécutif, personne n'a moufté, entre guillemets, quand on a décidé d'adopter la CAN à 24. Mmh. Maintenant, c'est la première fois qu'on applique cette nouvelle formule de la CAN à 24, et dès la première occurrence, on voit que ça pose un gros problème. Donc, est-ce que l'erreur n'a pas été de mettre la CAN à 24 dès la CAN qui suit et de ne pas attendre une édition suivante? Parce que d'abord, quand on l'a attribué au Maroc, au Cameroun, arrête-moi si je me trompe, elle était à 16 initialement. Et c'est une fois qu'on est passé à 24 le cahier des charges a évidemment changé pour le Cameroun. Je ne dis pas qu'il aurait été prêt à 16 et je ne dis pas que ce qui se passe actuellement dans le nord du pays aurait pas pesé. Mais ce qui est sûr, c'est que rajouter 8 équipes avec tout ce que ça peut impliquer au niveau des structures, de capacité d'accueil, de logistique, financièrement, déjà la CAF a aussi sa part de responsabilité. C'est pas très intelligent.
Le Cameroun aurait pu faire ce qu'il fallait au moment où on est passé de 16 à 24.
C'est sa part de responsabilité.
Voilà, le Cameroun a aussi dit non, vous inquiétez pas, on va gérer.
Est-ce qu'un pays aussi peut se permettre au niveau de l'image de refuser d'organiser une compétition pour ça? Ça fait un peu on est faible, ça fait un peu on n'a pas les moyens. Et est-ce qu'on peut se permettre de faire ça?
Le Maroc a refusé d'organiser la CAN 2015 en évoquant Ebola alors qu'il accueillait la Guinée pour ses matchs de compétition. On fait un point rapide. Le Maroc, oui, mais non. Finalement, est-ce que c'est une stratégie?
Est-ce que ce sera
pour se faire prier si jamais il n'y a pas d'autres candidats? On rappelle quand même qu'à 5 jours du comité exécutif, l'UNAF, l'Union Nord-Africaine de football, avait unanimement décidé de soutenir une candidature marocaine. On rappelle que Fouzi Legja, ou en tout cas une taupe marocaine, avait averti les médias marocains tout de suite dans la matinée, pendant le COMEX, du retrait au Cameroun. On rappelle qu'Hervé Renard avait été le premier sélectionneur à réagir ce soir-là et à dire ouais, le Maroc me semble tout à fait prêt. L'Égypte avait dit non parce qu'il y avait le Maroc. Depuis qu'il n'y a officiellement plus le Maroc, l'Égypte dit peut-être que nous on pourrait y aller. L'Afrique du Sud, on sait pas bien pour le moment, mais on sait que il faudra passer par le Parlement, que ça peut être compliqué. Quid des co-organisations? On a entendu Christophe parler de quoi? Ouganda, Kenya,
Tanzanie, Kenya. Bon, c'est
l'usine à gaz.
Il y a tellement de dans le flou ambiant, disons qu'il y a beaucoup de choses. Ça favorise la circulation de supputations. La vraie question actuellement, je pense que c'est la question la plus brûlante, c'est comment évaluer cette prise de position d'hier du Maroc. Est-ce qu'on est sur un vrai refus? Et le ministre des Sports du Maroc, que vous avez entendu sur l'antenne de RFI hier, expliquer de manière assez détaillée les raisons de ce refus, était assez précis. Et il disait, on peut entendre ses arguments, il disait justement, c'est une CAN à 24, c'est un événement en plus qui va être suivi peu de temps après par les Jeux africains, puisque le Maroc va organiser les Jeux africains. Bref, il faut mobiliser un budget, il faut prévoir d'accueillir 24 pays, ce n'est pas rien. On avait envie de l'écouter et de le croire. Mais l'autre solution, c'est que le Maroc s'engage dans une espèce de début de négociation, peut-être aussi pour discuter finalement avec la CAF sur qui va prendre en charge telle et telle dépense. Vous voyez, ça peut aussi évoluer. On peut faire bouger les lignes budgétaires qui sont habituellement les règles, qui sont habituellement, je ne sais pas, moi, voilà. Donc, il y aura une CAN de toute façon. Il y aura une CAN 2019, ça, il faut pas s'inquiéter. Simplement.
Et au Cameroun peut-être finalement.
Mais je pose la question, à vous de me répondre. Les probabilités de voir la CAN délocalisée sur un autre continent, est-ce qu'elles existent?
A priori, ils ont dit non. En tout cas, pour le Qatar, Constant Marie a dit beaucoup de choses sur RFI vendredi qui n'étaient pas tout à fait justes toujours. Mais ça semble exclu.
Ce serait un énorme camouflet.
Le camouflet existe déjà, Christophe. Quand on n'est pas fichu d'organiser une CAN, parce qu'il y a aussi un problème de timing qui va commencer à se poser au-delà de l'organisation structurelle, de tout ce que ça peut mobiliser d'hommes et de moyens. Il y a un problème de timing. Bon, vous disiez tout à l'heure, officiellement le dépôt de candidature c'est demain, mais on sait que ça peut être retardé.
Oui, le président Hamad l'a dit sur cette antenne lundi.
L'annonce,
on verra s'il
l'annonce de la du pays organisateur, c'est le 9 janvier.
Ça, il a quand même été très ferme et très précis là-dessus.
Ça veut dire...
Il y a un comité exécutif, il y a une cérémonie la veille, ils seront tous réunis.
Il resterait 5 mois et 4 jours en gros pour organiser une compétition. Même avec l'aide de la CAF, même dans un pays structuré avec des moyens de...
La Guinée équatoriale l'a fait en 56 jours. Enfin, avec une CAN à 16 équipes.
Ouais, et avec un accompagnement dans la communication qui était de dire justement, soyez indulgents parce qu'on a trouvé cette solution au dernier moment presque et donc ne soyez pas trop exigeants sur les conditions dans lesquelles cette CAN va se tenir. Sauf que la nouvelle équipe dirigeante de la CAF est arrivée au pouvoir en disant... On va changer la qualité, on va monter l'exigence pour ce grand tournoi continental qui a lieu tous les 2 ans.
Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est
de temps en temps, faut pas parler trop vite, faut d'abord voir comment comment ça peut se faire.
On en a parlé l'autre jour, le fait que Hamad ait donné tard le retrait de la CAN au Cameroun a aussi pesé dans...
C'est une évidence. Je voudrais garder 20 secondes pour vous annoncer la nouvelle du jour qui concerne l'Afrique. Alain Giresse, nommé sélectionneur de la Tunisie. Alain Giresse, que l'on entendra sans doute dans les heures qui viennent sur RFI. En tout cas, voilà, un nouveau poste, un nouveau pays. Ça va être sa 5e ou 6e sélection africaine. On lui souhaite d'ores et déjà bon vent. On remercie tous les auditeurs, Laurent Salerno, Pierre-Olivier Guérin. Demain, la dame est de retour.